Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, bonjour, c'est le 31e de notre 10e saison et je reçois aujourd'hui André-Luc Montagnier, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Maire de la commune de Fleury-d'Aude, également vice-président du Grand Narbonne, et on y reviendra dans une troisième partie, on parlera d'une compétence qui s'appelle alors communication et numérisation.
Transition numérique, digitalisation des services et communication.
Oui, voilà, la communication et puis surtout l'informatisation, la numérisation.
Absolument.
Ou la digitalisation, ce qui veut dire la même chose.
Absolument.
Même si le mot est plus dur
à prononcer.
On y reviendra, mais surtout André-Luc Montagnier, vous avez été élu maire de Fleury pour la première fois en 2020. Donc, c'était votre premier mandat. Alors, première question qui s'impose. Vous arrivez avec un projet, bien entendu, et avec un état d'esprit, et vous découvrez la commune dans un certain état. Comment tout ça là se passe-t-il?
Alors, écoutez, sincèrement, je n'ai ni eu de mauvaise surprise, ni de bonne surprise. Pour être clair.
Mais vous étiez quand même un observateur de la vie communale.
J'étais un observateur de la vie communale. Évidemment, je me retrouve un petit peu de l'autre côté, si je puis dire. Et c'est vrai que voilà, j'ai découvert aussi la vie d'élu. Et j'ai eu la chance d'être particulièrement bien accompagné. Et tout se déroule honnêtement comme je l'avais prévu.
Oui, ah oui. Donc pas de gros désagréments, de grosses. Vous dites finalement pas de surprise.
Alors pas de surprise. J'arrive du privé.
Voilà. Alors
donc,
quand même.
Voilà.
Vous êtes un homme d'entreprise privé auparavant.
Voilà, chef d'entreprise. Donc évidemment j'arrive du privé. Je découvre un monde qui n'est pas le mien.
Même qui est très différent.
Très différent. Mais comme tout chef d'entreprise qui se respecte, eh ben on s'adapte.
Voilà.
On s'adapte et je me suis adapté très vite et ça fonctionne plutôt bien.
Alors la première adaptation, et à peu près tous les chefs d'entreprise qui deviennent élus me disent à peu près la même chose, dans l'entreprise il y a le temps rapide, on est réactif. Dans la vie municipale ou la vie publique, c'est le temps long administratif.
Les délais ne sont pas les mêmes. On peut le dire. Ne sont pas les mêmes.
Bel euphémisme.
Ça, voilà. On ne maîtrise pas, malheureusement, les délais, même si, on est une locomotive dynamique et on essaye de faire en sorte que tout s'accélère. C'est le cas. Mais après, il y a des délais incompressibles, bien entendu. Et donc, encore une fois, je vous l'ai dit, le maître mot, c'est on s'adapte.
Voilà. Et alors, on trouve aussi une commune dans un certain état. Et par exemple, la commune de Fleury a été célèbre dans les années 90, 2000, etc. Ou tristement célèbre pour son affaire de la bulle, c'est-à-dire un projet qui n'a pas été utilisé, mais qui a pesé financièrement sur les budgets successifs.
Voilà, ça a été effectivement une fracture financière pour la commune de Fleury dans les années 90. Et cette fracture financière s'est aussi transformée en fracture psychologique. Si bien que...
C'est-à-dire une sorte de traumatisme.
Une sorte de traumatisme dans lequel, je pense, il y a une certaine appréhension d'investir ou de créer des projets d'envergure sur la station de Saint-Pierre-la-Mer.
Ah oui, ça a créé une timidité un petit peu...
Peur même.
Oui, une peur. Oui, on peut comprendre, oui, en disant... On va essayer de faire quelque chose, mais pourvu que le ciel ne nous tombe pas sur la tête.
C'est ça. Toujours la peur de recréer finalement une nouvelle bulle ou un nouvel échec.
Oui, on comprend. Alors il faut préciser aussi, seconde précision, alors géographique celle-ci et non plus historique, c'est que votre commune est tripartite. Il y a le village de Fleury, il y a la station balnéaire de Saint-Pierre-la-Mer et il y a les cabanes de Fleury, c'est-à-dire trois unités finalement.
C'est ça. C'est à la fois...
Différentes, dans la même commune.
Différentes, donc, mais encore une fois, trois visages, trois expériences, peut-être même trois cultures différentes, avec, vous l'avez très bien souligné, le village de Fleury, qui est un village dans les terres, village vigneron, les cabanes de Fleury, le village de pêcheurs, et Saint-Pierre-la-Mer, la station balnéaire récente, avec une 8000 résidences secondaires, donc une culture aussi différente, puisque ce ne sont pas forcément des Pyrénées de souche, qui réside à Saint-Pierre, contrairement au village.
Oui, voilà, c'est des populations, on peut le dire, différentes.
Totalement différentes.
Par la force des choses, voilà. Donc ça, il faut le rappeler aussi pour peut-être comprendre un peu certaines choses dans la gestion d'une commune.
Absolument.
Comme Fleury. Alors donc, vous arrivez, André-Luc Montagnier, quelles sont les priorités que vous vous fixez en découvrant ce monde ?
Alors, on a souhaité avoir une approche globale de la situation et donc on a constaté quand même un nombre important de priorités, si
oui,
je puis dire. Et ça, le constat est évident, c'est l'état déplorable des voiries et l'éclairage public sur l'ensemble des secteurs, donc sur les trois pôles de la commune. Bien entendu, l'absence d'un aménagement du front de mer qui soit digne de ce nom. On était une des rares, voire une des seules communes du littoral à ne pas disposer d'un front de mer. Il faut quand même le souligner. Et c'est ce que on se disait en juste avant, probablement dû
à cette peur, fameuse bulle de Saint-Pierre.
À cette bulle de Saint-Pierre qui a gelé tous les projets d'envergure sur Saint-Pierre-la-Mer. On avait également l'absence, et c'était aussi une priorité du mandat, d'une offre de soins susceptible de répondre à la demande locale, avec une absence de médecins. Ça, c'est un problème, malheureusement.
Le désert médical, dans beaucoup d'autres endroits.
Comme malheureusement dans beaucoup d'autres endroits. Donc, c'était une priorité qu'il fallait aborder. On avait également la typicité de notre territoire, une faiblesse de cohésion aussi sociale entre les secteurs de la commune, avec une attente forte des habitants, qu'il fallait répondre. Un niveau de sécurité, de propreté qui n'était pas suffisant. C'était aussi un constat. Et donc tous ces points, il fallait y apporter des réponses.
Oui. Alors là, qu'est-ce que vous avez attaqué ? À propos d'ailleurs, très vite, vous avez découvert aussi la gestion et la gestion humaine d'une mairie. Et il y a un petit épisode sur lequel je voudrais revenir récemment, parce que notre confrère de l'Indépendant parlait des tags de la discorde. Alors, il y a des Pérignanais qui ont à un moment tagué une rue qui devait être refaite. Vous n'avez pas tellement apprécié et vous avez dit, puisque c'est comme ça, on va repousser les travaux. Expliquez un peu les circonstances.
Alors,
quand même.
Bon, vous en parlez, mais ce qui est important, effectivement, déjà de savoir, c'est que sous l'impulsion de la municipalité depuis 2020, soit il y a moins de 4 ans, je le précise, nous avons conscience, encore une fois, de l'état déplorable des voiries et nous avons investi plus de 12 millions d'euros de travaux, dont 4 millions d'euros d'investissement sur les voiries. Tout ça, entre parenthèses, en réduisant la dette de la commune de 10%, je le note. Donc il va sans dire que nous ne pouvons malheureusement pas tout refaire d'un seul coup, pour des raisons budgétaires, vous l'avez compris, mais aussi des choix et des priorités qu'on a établies, que nous avons établies. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons organisé des réunions de quartier.
Oui, voilà, vous avez consulté les gens.
Voilà, pour consulter les habitants, leur expliquer ces problématiques, aussi budgétaires, et leur dire, quelles sont pour vous les priorités de votre quartier, pour qu'on puisse effectivement leur apporter des réponses et pouvoir planifier les travaux.
Elles ont été établies d'un commun accord.
C'est établi d'un commun accord. Mais donc, à réception de ce courrier, un citoyen a décidé de manifester son mécontentement en taguant la voirie à la peinture, notamment en y inscrivant « Ici, c'est Gaza ». Bon. Je peux vous garantir, j'ai pas eu malheureusement la chance d'être allé à Gaza, mais je peux dire sans difficulté que Fleury n'a rien à voir avec Gaza. Et donc, à réception, si vous voulez, on ne peut pas donner aux citoyens le sentiment qu'il suffirait de taguer une voirie pour obtenir sa réfection. Et donc, nous avons été contraints, à cause de cette attitude, de reporter la réfection de cette rue, sans non plus tout reportant. On a quand même assuré la sécurité de la voirie en rebouchant les trous importants. Mais tout ça pour dire que la démocratie, pour moi, elle repose sur l'échange et sur la discussion et non pas sur la pression et sur le chantage.
Oui. Et puis, plus que taguer, c'est pas beau touristiquement non plus. Et puis, c'est vrai que ça fait désordre.
Vous imaginez qu'avec 145 km de voirie sur la commune.
Si tout le monde se met à taguer.
Avec des dizaines et des dizaines de kilomètres de voirie en piteux état, si tout le monde chaque citoyen se met à taguer sa rue pour nous obliger à la rénover, oui, ça ne fonctionne pas.
Oui,
ça ne peut pas
fonctionner. Oui. Donc le message est clair. André-Luc Montagnier n'aime pas ce genre de manifestation. Ça crée du désordre.
Je suis dans l'échange, dans la discussion, dans le compromis. Mais non pas, je n'accepte pas le chantage et la pression.
Voilà. Et alors donc, vous êtes parti sur certains projets qui sont en cours. Alors, le front de mer, justement, vous disiez, il n'y en avait pas. Donc pour vous, c'était une priorité. Comment l'avez-vous envisagé ?
Alors, encore une fois, je veux dire, on a une approche globale. On intervient là où l'urgence est la plus prégnante. Voilà. Mais effectivement, le front de mer était une priorité absolue. Donc cette année, donc nous avons lancé dès 2020 la rénovation du front de mer. Il faut savoir que le front de mer, c'est 125 000 mètres carrés de réaménagement. C'est-à-dire que c'est plus d'une dizaine d'années de travaux. C'est pas rien.
Oui, c'est forcément phasé. Enfin,
voilà, c'est forcément phasé. Donc c'est encore une fois la base de ces travaux, c'est la désimperméabilisation, la végétalisation et la piétonnisation. Là, cette année, donc dès la première année, nous avons attaqué le secteur de la mairie annexe, entièrement rénové, avec l'implantation de pins parasols, la rénovation de la mairie annexe à l'instar d'une bergerie comme dans la CLAP, hein, puisque l'objectif c'est de recréer, d'où son nom, le projet CLAP au cœur, c'est de réintégrer la CLAP telle qu'elle existait par le passé, avant l'occupation allemande. On ne fait que rendre à Saint-Pierre, finalement, un peu de son histoire, je l'ai toujours dit. Et donc là, chaque année, effectivement, on investit entre 1,5 et 3,5 millions d'euros par an sur le front de mer de Saint-Pierre qui en a besoin. C'est une nécessité aujourd'hui pour le développement touristique de notre commune. Et donc, on a attaqué dès 2020 la première phase. Et cette année, donc, on va livrer la passerelle en bois qui relie au-dessus de l'Anou les halles et les maisons de la mer.
C'est une promenade sur pilotis, c'est ça ?
C'est une promenade sur pilotis, absolument.
Voilà. Donc ça y est, ça existe.
Elle existe. Elle est en cours de. Elle sera livrée fin juin. Et il manquera un tronçon, mais c'était prévu, qui sera livré en octobre.
Elle fait quelle longueur ?
Elle fait à peu près 500 mètres.
Elle fait déjà 500 mètres.
Oui, elle fait 500 mètres.
Et à terme, elle fera combien ?
500 mètres. Elle sera livrée. Voilà. Ça, c'est vraiment la tranche principale du front de mer, en cœur de ville, en cœur de station. Voilà, avant de d'enchaîner sur le contournement de la station de Saint-Pierre, qui a fait l'objet d'une consultation citoyenne et qui sera lancé dès 2025 pour une livraison prévue en fin 2025 début 2026, qui permettra donc de contourner la station sans passer par le centre, et puis on enchaînera par la réfection des halles sur le même état d'esprit que la mairie annexe.
Alors cette promenade sur pilotis, l'idée c'est que même quand il y a des coups de mer, par exemple, on peut se promener tout près de la mer.
Voilà, en fait. Aucune difficulté puisqu'elle est construite sur le pluvial, nécessaire effectivement pour les évacuations des eaux. Donc c'est un bois IP5, un bois qui garantit 30 ans, qui peut rester immergé dans l'eau.
Un bois quoi ?
Un bois IP5.
Ça veut dire quoi ?
Ben, c'est une qualité de bois qui va permettre son immersion totale dans l'eau douce, dans l'eau de mer.
Alors peut-être un putrécible.
Voilà, absolument un putrécible, très costaud. C'est un bois exotique. Malheureusement, on n'a pas de bois européen aujourd'hui qui ont cette garantie. Mais c'est un bois encore une fois exotique qui est un bois durable et responsable. On a été très à cheval sur là-dessus, mais on n'a malheureusement pas le choix que de faire appel à ce bois. Mais c'est un bois qui peut rester encore une fois immergé dans l'eau pendant des mois. Il ne bougera pas.
Oui, voilà. Et alors, avant de marquer une pause, alors elle a un nom cette promenade ou...
Non, on l'a pas encore baptisé. Trouvé de nom. C'est dans le cadre du projet Clap au cœur. Donc c'est la promenade du projet Clap au cœur et elle n'a pas encore trouvé.
Alors on laisse les Pérignanais élucubrer pour lui trouver un nom et on marque André-Luc Montagnier une première pause.
Merci.